France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets sont sur leur 31 cette semaine. Le département de Haute-Garonne, numéro 31, est à l'honneur puisque le jeu des 1000 euros est installé à Villeneuve-Tolosane. Et aujourd'hui, nous causons couture. Quoi de mieux qu'un fil et une aiguille ou une machine à coudre pour créer du lien? À Toulouse, un atelier de couture dans le quartier du Mirail propose à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver de la confiance en elles, de se remettre au travail. Toulouse Espace Couture est aussi un atelier partagé où travaillent des professionnels aguerris, des stylistes, et ce mélange est très précieux. Mais d'abord, une initiative nationale qui s'adresse aux profs et aux parents d'élèves. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Des ressources face au harcèlement scolaire. Que l'on soit parent ou professionnel de l'éducation, il est précieux de trouver des clés de compréhension de ce phénomène complexe, des moyens efficaces de lutter contre et de prévenir le harcèlement à l'école. C'est ce qu'a proposé le mois dernier un sommet en ligne dans lequel sont intervenus des psychologues, des enseignants, des chercheurs et chercheuses, des associations, toute une diversité de profils autour de ce thème unique. Et les interventions de ce sommet en ligne sont disponibles gratuitement aujourd'hui et pendant 3 jours à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Bonjour Coralie Garnier.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes formatrice, créatrice d'un blog et d'une entreprise consacrée à l'éducation positive, baptisée les 6 doigts de la main, et créatrice donc de ce sommet en ligne qui a eu lieu début octobre. Pourquoi un sommet en ligne et pas en présentiel d'abord ?
Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en ligne, on atteint beaucoup plus de gens et mon but est de diffuser le plus largement possible puisque les événements en présentiel qui sont organisés autour de ce sujet peuvent réunir quelques centaines de personnes, mais jamais des milliers comme ces sommets en ligne. Et puis, qui offrent la flexibilité pour chacun de le suivre au moment qui leur convient. Et la deuxième raison, c'est pour me coller à l'agenda des intervenants. C'est-à-dire que les intervenants qui participent à ce sommet en ligne, c'est donc la deuxième édition qui a eu lieu en octobre dernier. Il y en a déjà eu une en 2024. Il y a une 20aine d'intervenants dans chaque cas. Et ces intervenants, moi, je pré-enregistre leurs interventions avec eux. Cela s'étale sur plusieurs mois. Ils ne sont pas tous disponibles pendant la semaine du sommet. Donc, ça me permet d'avoir une belle variété d'intervenants.
Toutes les interventions ont été filmées et certaines sont donc accessibles gratuitement pendant 3 jours. Je me faisais la réflexion qu'il n'est pas fréquent de s'adresser aussi bien aux parents qu'aux professionnels de l'éducation sur ce sujet du harcèlement. Pourquoi est-ce que vous tenez à ce rapprochement ?
Ça, c'est un point très intéressant. C'était que c'était une des intentions de ce sommet de faire se rapprocher les deux mondes, en fait. On a souvent l'impression de travailler pas forcément main dans la main entre les établissements et les parents. Et je pense que souvent, on se retrouve dans des situations qui sont déjà lourdes en émotions à rajouter un conflit supplémentaire dans l'incompréhension qui peut exister entre l'établissement et les parents. Et le fait que les interventions s'adressent aux deux permet de rejoindre les deux et que chacun comprenne mieux la position de l'autre et donc, je l'espère, de créer plus de coopération dans les situations qui surviennent.
Alors, le mérite de ces différentes interventions, c'est qu'elles proposent beaucoup de solutions concrètes. J'en ai repéré une notamment sur l'humour proposé par une psychologue, Lucie Tamarel. Le fameux « c'était pour rire », ça peut être terrible dans une situation de harcèlement scolaire.
Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est de voir le lien aussi entre les différentes interventions, parce que Lucie Tamarel nous parle effectivement de la place de l'humour dans la situation de harcèlement, là où Philippe Haïm, dans la première édition, nous parlait de méthodes concrètes, de comment répondre justement à des moqueries. Donc, ce que j'aime aussi, c'est de voir que sous différents angles, on peut arriver au même point. Et il y a aussi des outils qui sont plus que concret, par exemple, avec des jeux de cartes qui permettent d'aborder la question et de s'entraîner à avoir des réparties. On a aussi des approches sur les développements des compétences psychosociales qui viennent en prévention d'une posture de harcèlement, parce que on sait aujourd'hui que tous les enfants peuvent être victimes de harcèlement. C'est pas parce qu'ils ont quelque chose de particulier qu'ils le sont, mais ça dépend aussi de leur posture face aux situations de la vie. Donc, eux-mêmes peuvent être acteurs du fait de se sortir de cette situation.
Cette question de la posture, elle est compliquée parce que ça peut donner l'impression que c'est de la faute de la victime, qu'elle n'avait pas la bonne posture et que c'est pour cette raison qu'elle a été harcelée.
Alors, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée est de bien recevoir le fait que ces enfants sont effectivement complètement innocents. Mais la différence, l'approche qu'on a, c'est de penser qu'ils sont innocents, mais pas impuissants. Et ça change tout. Parce que une posture qui est assez courante, c'est de venir, nous les adultes, en garde du corps, en disant « tu es innocent et je vais te protéger », mais en restant dans cette posture simple de protection, je ne dis pas qu'il ne faut pas les protéger, bien sûr, mais si on ne fait que les protéger, sans leur montrer qu'ils ont également des ressources internes, ils risquent de rester dans cette croyance qu'eux ne savent pas faire face.
Une intervention a aussi été consacrée à la réputation. Très vaste sujet au collège et au lycée que celui de la réputation.
Tout à fait. Margot Déage est chercheuse et sociologue, donc elle apporte un angle différent puisque sur la question du harcèlement scolaire, il y a beaucoup de psychologues, psychothérapeutes, psychiatres qui travaillent et qui apportent des réflexions très intéressantes. Margot Déage est sociologue, donc elle a réfléchi, elle a creusé, elle a fait une thèse sur la notion de réputation en s'immergeant dans des collèges de la région parisienne. Et d'ailleurs, son intervention sur la réputation au collège fait partie de celles qui seront diffusées gratuitement pendant ces 3 jours.
Ce qui est très important, et c'est ce que je retiens des différentes interventions de ce sommet, c'est l'importance de varier les méthodes, Coralie.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est un point réellement fondamental et je vous remercie de le soulever parce que aujourd'hui, en France, on s'adresse beaucoup plus qu'avant aux situations de harcèlement. Il y a vraiment plein d'actions qui sont mises en place, y compris évidemment cette journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Et c'est vraiment une bonne nouvelle et on progresse. Cependant, on est encore limité dans les établissements par le manque de variété dans nos façons d'aborder les situations. Les personnels éducatifs sont formés majoritairement à la méthode de la préoccupation partagée, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais se retrouvent un petit peu démunis quand celle-ci ne fonctionne pas. Or, toutes les situations ne sont pas équivalentes, tous les problèmes ne sont pas les mêmes, et je pense que c'est très important qu'il y ait différentes façons d'aborder les choses. Et ça a d'ailleurs été le retour de certains des personnels de terrain lors de certaines interventions du sommet.
Et vous, Coralie, à titre personnel, comment vous êtes-vous engagée sur ce sujet-là ?
Alors, les questions des relations entre enfants, entre adultes et enfants, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps en tant qu'accompagnante en éducation positive. Et je me suis retrouvée avec mon troisième enfant, j'en ai 4, quand il était en 6e, dans une situation un peu délicate et que je ne sais pas s'il fallait qualifier de harcèlement scolaire, mais dans laquelle en tout cas il était en souffrance. Et je me suis dit que m'adresser à l'établissement qui risquait d'intervenir avec une posture de sanction qui, je le savais, ne serait pas productrice et efficace, n'était pas la meilleure méthode. Et donc, avec lui, on a cherché des ressources, en fait. Et on a vraiment trouvé des méthodes, des soutiens pour l'aider à changer dans sa posture, évoluer, aborder les choses autrement. Et en quelques mois, il a réellement réussi à mettre en place des choses qui lui permettaient de sortir de sa situation. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, on devrait être plus nombreux à être au courant en amont pour éviter que ces situations se présentent. Ce développement des ressources psychosociales qui permettent à chaque enfant de trouver sa place autrement qu'en rabaissant d'autres ou en subissant le pouvoir de quelqu'un d'autre, ce sont des compétences qui sont à développer, qu'on parle de harcèlement ou pas en fait.
Sommet en ligne contre le harcèlement scolaire. Des ressources disponibles gratuitement donc aujourd'hui et pendant 3 jours. On trouvera un lien sur le site des carnets de campagne pour y accéder. Merci beaucoup Coralie Garnier.
Merci beaucoup Dorothée.
Et bonne journée. Au revoir.
Également.
Une association toulousaine nous a envoyé un message. Je relais son appel. Le Vallon, écrit Sonia, est une association composée de 6 salariés et 30 bénévoles qui assure toute l'année une permanence 24 heures sur 24 à la maison d'accueil hospitalière sur le site du CHU de Rangueil à Toulouse. Nous offrons un logement et un accompagnement humain et chaleureux aux parents et aux proches des personnes qui sont hospitalisées ainsi qu'aux patients en traitement ambulatoire. Voilà, précieuse mission que celle de prendre soin des proches des malades à l'hôpital. Le Vallon à Toulouse a besoin de plus de bénévoles et vous trouverez leurs coordonnées sur notre site internet.
France Inter. Carnet de campagne.
Et nous voici à Bellefontaine, quartier populaire de Toulouse, pour parler d'un endroit où les machines à coudre s'activent, où la couture surtout est au cœur d'un projet social. Toulouse Espace Couture est un tiers-lieu qui propose un atelier partagé pour les professionnels de la couture, mais aussi des cours de couture pour le grand public, une mercerie solidaire. Et c'est aussi un endroit où l'on essaye de redonner goût au travail à des personnes qui en sont éloignées. Bonjour Séverine Follinier.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes la directrice de Toulouse Espace Couture. C'est un lieu de mélange, j'ai l'impression.
Oui, c'est ça. Toulouse Espace Couture, c'est un lieu qui est situé en quartier prioritaire de la ville. On a la chance d'accueillir beaucoup de typologies de personnes différentes, mais toutes passionnées par la couture.
Vous êtes sur place hein, en ce moment. Vous nous décrivez les lieux ?
Alors, on a un petit peu l'espace de coworking qui est le cœur du système de Toulouse Espace Couture, où là, on accueille des personnes qui viennent faire des cours de couture, de la location de matériel professionnel aussi, pour les personnes qui savent utiliser les machines à coudre professionnelles. On a également ma collègue Cathy, qui est conseillère en insertion professionnelle, qui a son bureau sur place et qui collabore sur notre pôle de remobilisation. Et on a une mercerie aussi de seconde main. Voilà.
Espace de remobilisation, dites-vous. Donc, ce sont des personnes qui ne travaillent plus depuis longtemps et qui viennent, en cousant, retrouver un peu de confiance en elles, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, à l'origine du projet de Toulouse Espace Couture, il y avait un chantier d'insertion qui était prévu et qui a hélas pas pu voir le jour. Moi, c'était la dimension qui m'intéressait hein, sur ce projet qui a été créé par un incubateur. Et là, on a un petit peu dévié le modèle en accueillant des personnes sur des sessions de 6 semaines seulement et des publics très éloignés de l'emploi.
Qu'est-ce que ça apporte, alors, la couture à ces gens-là ?
Alors, la couture, dans ce système, on l'utilise vraiment en tant qu'outil. On détecte toutes les compétences transférables, aussi la façon d'être en groupe, d'arriver à l'heure. Enfin, c'est vraiment le modèle, un chantier d'insertion. Et la couture, ça apporte la confiance en soi, la fierté de terminer un objet, et puis toute la minutie, savoir démonter, recommencer. Voilà, c'est un très très bel outil qui est universel en plus.
Est-ce qu'il y a un parcours, une personne passée par chez vous dont vous avez envie de nous parler, Séverine ?
Il y en a beaucoup. On a, je pense à Nadia, qui fait des robes magnifiques. On a pu voir à la fin de la session qu'elle faisait des robes pour le Festival de Cannes. Donc, on a des savoir-faire complètement dingues, hein. Des personnes qui sont complètement isolées, qui arrivent à sortir de chez elles et qui savent faire de la broderie, enfin de l'artisanat, comme on ne pourrait pas en voir sur le territoire. Enfin, on a vraiment de très, très belles choses qui se passent.
On parlait de mélange tout à l'heure. Il y a aussi pas mal de brassage. Hein. C'est un quartier populaire, beaucoup d'origines différentes. Ça enrichit également votre atelier couture ?
Ah oui, complètement. Et ce qui est génial, comme je le disais, c'est que c'est un outil universel. Donc du coup, les gens se fédèrent autour de cet outil et on a des tas d'échanges et de belles choses, des techniques qui s'échangent, des progrès sur la langue aussi, et puis des personnes qui s'ouvrent complètement.
Il y a aussi une dimension écologique dans votre démarche. Vous récupérez des textiles pour leur donner une seconde vie. D'où viennent les vêtements en question ?
Alors, c'est surtout des tissus qu'on récupère à la base, donc beaucoup de dons de particuliers qui ont envie de se débarrasser de leurs tissus, donc souvent des anciennes couturières ou des grands-mères en fait qui n'ont plus envie de coudre. Et on a également des partenariats avec des entreprises. Là, on a IKEA, par exemple. Tous les mois et demi, on va dans leurs locaux et ils nous donnent tous les tissus qui sont plus en état d'être dans le magasin.
Et que deviennent ensuite ces tissus ? Vous les revendez en l'état ou vous les utilisez pour des ouvrages de couture ?
Eh bien, il y a plusieurs choses qui se passent. Là, on peut les revendre en l'état. Alors, par exemple, on peut démonter quand c'est des housses de coussins. On récupère aussi tous les zips. On essaye vraiment de valoriser tout ce qu'on récupère au maximum. Et là, en ce moment, on est en train de développer notre marque d'accessoires qui est à base de recyclage textile. On vient d'être labellisé fabriqué en Occitanie, ce qui est une très belle chose pour nous.
Et justement, alors cette marque sera lancée, je crois, les 14 et 15 novembre, à l'occasion d'un festival qui s'appelle Toulouse Nouvelle Mode, au Hall de la Cartoucherie à Toulouse. C'est un sacré chapitre pour votre tiers-lieu, cette nouvelle marque.
Oui, voilà, c'est un petit peu un espace de plus. Et puis, ça nous permet aussi de faire travailler notre offre de remobilisation là-dessus et de leur faire suivre un cahier des charges sur la création de marque. Chacun y met aussi un petit peu de créativité selon ce qu'ils ont envie d'apporter.
Qu'est-ce qui vous rend fière, Séverine ?
Bon, j'ai pas tendance à dire que je suis fière, mais bon. Mais quand même, ce que je trouve magnifique dans ce lieu, c'est justement tous ces échanges. C'était un petit peu mon rêve, hein, de réunir des personnes de différentes cultures, de tous les âges, de tous les milieux sociaux dans un même lieu et d'avoir ce côté tolérance. Enfin, on est vraiment dans une ambiance qui est superbe. Tout le monde rit toute la journée. C'est des cadres de travail comme il en faudrait plus.
Il y a toutes les raisons d'être fière, à mon avis.
Merci.
Toulouse, espace couture, c'est donc à Bellefontaine, quartier du Mirail, à Toulouse. Merci beaucoup, Séverine Foligné.
Merci à vous.
Et bonne journée, au revoir.
Bonne journée également, au revoir.
Carnet de campagne avec France Asso Santé et les représentants des usagers qui défendent les droits des patients. France Asso Santé, la voix des usagers de la santé.